matin tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Merci Mario pour les efforts supplémentaires que je t'ai fait faire pour avoir un petit PowerPoint. Ça me fait toujours plaisir de vous rendre visite avec toute la famille. On est content d'être là, content de passer du temps avec vous, content de, aussi de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un texte qui est bien connu, qu'on va regarder ce matin, Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Que probablement certains d'entre vous pourraient réciter une bonne partie par cœur. C'est un texte qui est simple, de façon générale, qui est connu, qui parle de plusieurs vérités au niveau de c'est quoi la foi, c'est quoi le salut, comment qu'on est sauvé. Donc, c'est un texte qui est bien connu, qu'on va pouvoir regarder ensemble. Sans aller plus loin, on va faire la lecture du texte. Vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles ou sur le PowerPoint si vos yeux sont capables. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qui bénisse la lecture de sa parole puis qui nous donne un bon temps ensemble. C'est un texte, comme j'ai mentionné, qui est connu, qu'on apprécie. Il y aurait énormément de choses à dire. Mon souhait d'un texte comme ça, c'est simplement la lecture, on en retire beaucoup. Il y a beaucoup de richesses qu'on peut découvrir. Mon souhait, c'est que en prenant du temps pour le considérer, j'arrivais pas à la hauteur du texte, mais qu'on puisse en retirer quelque chose ensemble. Bon, on va quand même commencer. Qui? Soyez honnête. Qui parmi vous a des fibres artistiques ou se considère d'une façon ou d'une autre comme un artiste? Oui, Guylaine, je te vois. Sinon, je ne t'aurais pas cru. Effectivement, on voit la fibre artistique qui est présente. Il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres. Il y en a qui sont gênés, peut-être. Il y a plusieurs formes d'art, vous êtes d'accord avec moi. Quand on dit artiste, on a des fois en tête, là, j'ai une image, une peinture. Il y a plusieurs formes d'art. Il y a évidemment la peinture ou le dessin. Ma mère est particulièrement bonne en dessin. C'est une blague. Mais c'est une forme d'art, évidemment. Il y en a que c'est la couture. Il y en a qui vont faire des choses exceptionnelles en couture. C'est vraiment impressionnant de les voir aller à notre assemblée à Sainte-Foy. Il y a une femme qui s'appelle Clarisse Rajon-Arivello, qui est excellente, qui fait de la couture pour ses enfants, puis elle fait des contrats, elle est vraiment, vraiment très bonne. Fait que, puis il y en a plein, c'est un art, les gens qui réussissent à faire des belles œuvres, c'est très impressionnant. Il y a d'autres formes d'art, la musique. Mario, peut-être tu es un, mais tu es quand même capable de nous accompagner, tu es capable de faire plein de choses. Donc, est-ce que je ne suis pas capable? Oui, puis il y a Régent aussi, Régent qui se fait discret, mais on sait que on sait qu'avec une guitare, tu n'es plus la même personne. Non, il y a différentes formes d'art. Puis il y a le culinaire aussi. Il y en a qui vont, avec quelques ingrédients, qui vont créer des chefs-d'œuvre gastronomiques avec pas grand-chose. Avec chacun ses chefs-d'œuvre, chacun sa haute gastronomie. Donc, il y a différentes formes d'art. Moi, honnêtement, je me considère pas comme un artiste, donc je n'aurais pas levé la main. Mais j'y travaille. J'ai du travail, puis avec les Megan qui aiment ça, faire du dessin, colorier, on a la chance de se pratiquer. Une chose qu'on fait beaucoup, c'est le coloriage avec des chiffres. Ça, c'est facile. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit ce que l'auteur a décidé. Bon, on met les couleurs qu'il a choisies, puis notre but, c'est de ne pas dépasser. Fait que c'est un peu, c'est là que je me trouve, mais j'ai la chance encore dans la quarantaine de me pratiquer. À ne pas dépasser et à faire des beaux dessins. Évidemment, je ne suis pas là ici pour vous parler de mes talents en art. Est-ce que vous pensez, par contre, que Dieu a un esprit artistique? Oui! La création, on n'a pas besoin de regarder très loin, on a juste à lever les yeux au ciel puis voir les images que Dieu, les couleurs que Dieu peut donner de différentes façons. Des fois, c'est mauve, bleu, des fois, c'est vert, avec des aurores boréales. Puis, on a vécu ce mois-ci, au début avril, le 8 avril, l'éclipse qu'il y a eu. Puis, c'est impressionnant de voir ça. Puis, Dieu n'était pas obligé de faire en sorte que la lune, les proportions lune, soleil, fassent en sorte que ça fasse exactement ça. Donc, Dieu a évidemment un esprit artistique, sa création le montre. Dans la Bible, dans Romains, au chapitre 1, le verset 20, ça nous parle des perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Ça dit, ça se voit comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Puis le mot « ouvrage » ici, c'est pas un travail sortir les poubelles. Il y a une idée d'œuvre d'art, une idée d'artiste, de chef-d'œuvre à travers ça. C'est vraiment cette idée-là qui est là, qui se trouve dans le mot. Puis, si je vous dis ce mot-là, dans l'original, dans le grec, le mot « ouvrage », si je vous dis qu'il se trouve à deux endroits dans la parole de Dieu, quel est le deuxième endroit dans lequel il se trouve? Genèse. Êtes-vous sûr? Genèse, c'est pas du grec, là, en passant. c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Nous sommes, oui, on vient de le lire. On vient de le lire, ça dit, « car... » Nous sommes son ouvrage, verset 10. Le texte nous dit que nous sommes son ouvrage. Donc, Dieu a fait une œuvre d'art, un chef-d'œuvre qui est la création, puis il a fait un chef-d'œuvre aussi qui est nous. Nous sommes son ouvrage. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, puis autant il a fait quelque chose de grand que la création, ce qu'il a fait dans nos vies, le salut, ce qu'il nous donne, c'est une œuvre exceptionnelle, c'est un chef-d'œuvre qu'on peut... Puis c'est nous, puis c'est extraordinaire de penser à ça, qu'on est, à l'œil de Dieu, son ouvrage, son chef-d'œuvre, une œuvre d'art. On ne créera pas ça quand on se regarde, mais c'est ça que la Bible nous dit. Puis c'est ce qu'on va voir ce matin. Ce texte-là, on pourrait le regarder de différentes façons, de différents angles. On va regarder beaucoup cet aspect-là, le fait que Dieu prenne un matériel qui est inutilisable, puis il le transforme en une œuvre d'art exceptionnelle. C'est beaucoup dans ce sens-là qu'on va le regarder ce matin. Donc, on va regarder un matériel inutilisable, un artiste illimité, une œuvre achevée, un chemin tracé et des applications en 2024 pour chacune de nos vies, des encouragements. Donc, avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on te remercie pour... ta parole, merci pour ce texte, ce passage que tu mets devant nous. Seigneur, on se place devant toi. Donne-nous un bon temps dans ta parole, Seigneur. C'est un texte extraordinaire qui nous parle de ta grâce, qui nous parle de l'œuvre que tu as fait pour nous. Puis Seigneur, on veut grandir en étudiant ce texte-là, on veut que nos cœurs soient élevés, puis que ça nous pousse à mieux te connaître, à mieux t'aimer, puis que ça ait un impact dans nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, un matériel qui est inutilisable. Donc, c'est quoi ce matériel inutilisable-là que vous pensez? C'est vous. C'est vous. Le texte dit « Vous étiez mort ». Le texte dit « Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés ». Donc, le texte mentionne « mort ». Puis là, on pourrait dire, mais ça, on regarde autour de nous des gens qui vont à l'épicerie, qui font des activités. Il me semble ils ont l'air bien en vie. Qu'est-ce qu'on entend par l'idée d'être mort? Il y a deux angles qu'on peut, ou deux aspects qu'on peut considérer à travers ça. Dans cette mort-là, il y a une mort spirituelle. La mort spirituelle, la mort signifie l'absence de communication avec les vivants. C'est donc dire que celui qui est mort spirituellement n'a pas de communication avec Dieu. Il est séparé de Dieu. Donc, il y a une séparation spirituelle avec Dieu. Dieu est là, puis à cause de la nature de l'homme, à cause de comment que vous étiez, il n'y a pas cette communication-là qui était possible. La communication avec Dieu était coupée, était impossible. La mort est une incapacité à réagir, quel que soit le stimulus, la mort physique, signifie que vous ne pouvez pas réagir. Donc, si quelque chose, un être est mort physiquement, il ne peut pas réagir avec son entourage. Donc, par rapport à Dieu, si on est mort, on ne peut pas réagir à ce que Dieu est, ce qu'il a fait. C'est un peu l'idée en arrière de ça. Donc, c'est une première façon de le voir. La deuxième façon qu'on peut le voir, c'est... Puis dans Éphésiens, le texte commence dans Éphésiens 1, chapitre verset 3, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ça parle de lieux célestes. Le texte qu'on a lu, on dit « On va nous amener ensemble dans les lieux célestes. » On ne se sent pas, on n'est pas dans les lieux célestes. C'est comme une idée, quelque chose qui est certain, qui est accompli. Donc, à cause de notre nature, à cause de ce qu'on a fait, la mort est notre conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans Genèse 2, le verset 17, quand Dieu avertit Adam, il parle de ne pas prendre le fruit défendu. Il dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, c'est une certitude. On est mort par nos offenses, par nos péchés. C'est une certitude que si Dieu n'intervient pas, cette mort-là reste certaine. Donc, vous étiez mort, vous étiez séparés de Dieu par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est un peu le même mot. Nos offenses, vos offenses, vos péchés, c'est les actions que vous faites qui sont contraires à la perfection de Dieu, à sa perfection morale, à toutes les choses qu'il est. Donc, toute chose qui va à l'encontre de sa justice, de sa perfection, est une offense qui mérite une réparation. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est terrible. C'est quelque chose qui est terrible, épouvantable. Donc, vous étiez mort à cause de ces péchés-là dans lesquels vous marchiez autrefois. L'idée, vous marchiez autrefois, donc vous marchiez dans les péchés. Au lieu d'aller vers Dieu, le lien est coupé avec Dieu. C'est impossible de se rendre à lui à cause de la nature des péchés qui sont faits. Malheureusement, vous marchiez dans une autre direction. Dans la mauvaise direction. Puis le texte nous dit, c'est quoi la direction-là? C'est avec quoi que vous avez un lien, une action? C'est, vous marchiez autrefois, le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, au lieu d'avoir une communication, un lien avec Dieu, Dieu nous a créé pour ça, bien, malheureusement, on suivait le courant du monde. Vous suiviez le courant du monde, le prince de la puissance de l'air. Donc, il y a des forces, puis des fois, on en vient qu'à l'oublier, on vit dans le monde, on ne pense pas qu'il y a des esprits qui agissent à l'encontre de Dieu. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible mentionne ces vérités-là, on n'arrive pas des fois à comprendre. Puis là, on peut pas dire, ben là, c'est pas de ma faute, c'est à cause que je suis ce courant du monde-là, je suis ces forces-là, je suis une victime, c'est pas ça que le texte nous enseigne. Si vous étiez mort, puis vous étiez des fils de la rébellion, vous étiez désobéissants, vous étiez rebelles à Dieu, à ses commandements, à sa volonté. Puis la conséquence de tout ça, c'est que vous étiez mort spirituellement, puis une mort physique était à venir également. Donc, c'est malheureusement ça, l'état, le matériel inutilisable que Dieu avait à sa disposition. Puis là, j'ai dit beaucoup le mot « vous ». Donc, Paul écrivait cette lettre-là, puis il dit « vous étiez mort, vous faisiez des offenses, vous faisiez des péchés. » Puis là, il dit pas « ben, vous étiez de même, mais moi, par exemple, on parle d'autre chose. » C'est pas ça que le texte dit. Il mentionne, en passant, « nous aussi ». Puis dans le texte, le « vous » et le « nous », ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul écrit à des Grecs, puis le « nous », c'est des Juifs. Donc, c'est cette idée-là. Mais l'idée, c'est de Paul le mentionner, c'est que moi aussi, j'étais dans le même bateau que vous. J'avais le même problème que je ne pouvais pas régler. J'étais, qu'est-ce qu'il dit? Nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est ce qu'il faisait. Disait Paul, disait, nous faisions ça aussi. Puis quand on lit un texte comme ça, tu dis, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, les volontés de la chair et de nos pensées, quel genre d'action vous avez en tête? Quel genre de péché ou d'action vous avez en tête quand on regarde des mots comme ça? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Des fois, on a l'impression que c'est des péchés lourds, grossiers, là, des choses là, qui sont laides, là, que n'importe qui condamnerait. Puis, quand on lit ailleurs dans la parole de Dieu, Paul, il parle de ce qui était dans la chair. On voit que ce n'est pas si terrible que ça. Paul, il parle comment qu'il était. J'aurais pu mettre confiance dans ma chair. Dans Philippiens 3, les versets 4 à 7, il mentionne, « Si quelqu'un pouvoir se confier à la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Donc, les œuvres de la chair que Paul faisait, c'était ça. Puis pourtant, le texte des Philippiens mentionne, dit, quand il a connu le Seigneur Jésus, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Donc, quand il a considéré la perfection de Dieu, sa sainteté, il dit, ces choses-là que je faisais, c'était comme une perte, ou comme la version d'Arby mentionne, comme des ordures. Donc, ça n'avait aucune valeur, c'était des poubelles. Même ses meilleures œuvres dans la chair n'avaient aucune valeur. Puis, c'est pourquoi? Parce qu'il avait pas, il était séparé de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu, il était inutilisable, il n'avait rien à faire. Puis, il était comme ça, j'étais comme ça, puis vous étiez comme ça également. Nous étions des enfants de colère. Tout ce qui nous méritions à cause de notre nature, c'était la colère. C'était les conséquences de nos péchés. Puis, colère, évidemment, c'est pratiquement, vous voyez l'image, tantôt, il y avait comme du bois mort. Malheureusement, ça n'a pas de valeur, puis ça méritait pratiquement d'être jeté au feu. Il n'y avait rien à faire avec ça, considérant la sainteté et la perfection de Dieu. Fait que c'est comme ça qu'on était, avec aucun espoir de changer les choses par nos propres forces, par nos propres moyens, aucune façon de se réconcilier avec Dieu par nos propres forces. Puis là, je vous renvoie chez vous. Puis là, c'est pas un beau texte si on arrête la lecture là. Mais le texte parle d'un chef-d'œuvre de Dieu. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que Dieu est illimité, puis Dieu est un artiste exceptionnel, puis il va prendre ce matériel-là qui est inutilisable, puis il va faire des grandes choses. Le verset 4, ça nous dit, « Mais Dieu, nous étions, par nos offenses, des enfants de colère, des fils de la rébellion, mais Dieu agit de façon différente. » Je cite William McDonald qui mentionne les deux mots, « Mais Dieu » forme une des transitions les plus significatives, éloquentes et inspirantes de toute la littérature. Ils indiquent qu'un changement de la destinée et du désespoir, de la vallée de la mort au délice indicible du royaume de l'amour du Fils de Dieu. J'ai une petite faute d'orthographe, mais on passe d'un point désespéré à un changement de destinée extraordinaire. Dieu agit, Dieu change le cours des choses. Puis c'est uniquement Dieu qui aurait pu le faire. Personne d'autre n'aurait pu faire de quoi le faire et personne d'autre n'aurait voulu le faire. Dieu était le seul qui pouvait agir puis le seul qui voulait agir. Dieu change le cours des choses. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Le texte nous dit Dieu est riche en miséricorde. Dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, il y a plusieurs endroits où on parle de la richesse de Dieu. J'en ai mis quelques-uns sur l'écran qui sont peut-être un peu petits. Chapitre 1, verset 7, ça parle de la richesse de sa grâce. Le chapitre 1, verset 18, ça parle de la richesse de la gloire de son héritage. Le chapitre 2, verset 4, ça dit qu'il est riche en miséricorde, c'est ce qu'on vient de voir. Puis le chapitre 3, verset 16, ça parle de la richesse de sa gloire. Donc, il y a plusieurs. Dieu est riche à tous les niveaux. Ça déborde. On parle d'une abondance dans ce qui est. Puis là, le texte nous mentionne qu'on regarde ce matin, le verset 4, ça dit qu'il est riche en miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est quoi la définition de la miséricorde? Ouais, c'est oui, mais c'est pas tout à fait ce que je veux entendre, Gilles. Oui. Oui, oui, Guylaine. C'est exactement ça la définition de miséricorde. Bravo, Guylaine. Je te donne un A. Puis Dieu a changé le cours des choses. Le psaume 103, verset 10, ça dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu ne nous donne pas ce qu'on aurait mérité. Dieu est riche à ne pas nous donner ce qu'on aurait mérité. On aurait mérité la colère, les conséquences de nos péchés, la séparation éternelle avec lui. Mais Dieu ne nous traite pas comme ça. Il est riche en miséricorde. Pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous aime. Puis Dieu, c'est ce qui le motive, c'est cet amour-là pour nous. Puis c'est un amour qui est différent un peu de l'amour qu'on peut ressentir d'une certaine façon. Là, je n'en ai pas là, mais tu sais, quand on s'est mariés, évidemment, je l'aime, là, on est mariés ensemble. Puis, tu sais, initialement, ce qui m'a aidé à développer mon amour pour elle, c'est, tu sais, il y avait une attirance vers ce qu'elle était comme personne, dans son ensemble. Ses qualités, c'est tout ce qu'elle faisait en sorte que j'avais envie de l'aimer, d'une certaine façon. Dieu n'était pas comme ça. Il regardait ce qu'on était, qui n'était pas aimable, qui était inutilisable. Puis, il a décidé, parce qu'il motive Dieu est amour, de nous aimer quand même. C'est comme ça que Dieu a agi. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, un amour qui nous dépasse. On n'avait rien d'aimable, pourtant, il nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a changé le cours des choses. Nous étions morts. Le texte a commencé, maintenant nous sommes rendus vivants. Donc le lien qui était coupé, qu'on ne pouvait pas avoir accès à Dieu, la conséquence qui s'en venait pour nos péchés a été changée, on a été ramené à la vie. Spirituellement, on était mort, puis on a été amené vivant. Donc le lien avec Dieu est possible. La séparation n'est plus là. Pourquoi? En Christ, à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait. Le texte nous dit... il nous a rendu la vie avec Christ, il nous a rendu vivants en Christ. Donc, c'est par grâce qu'on est sauvés. Donc, c'est vraiment lui qui a fait ça. Le verset 6, ça nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il y a beaucoup de richesses dans ces choses-là. Ensemble, on est amenés dans les lieux célestes. Évidemment, c'est quelque chose qui va s'accomplir pleinement dans l'éternité, mais on a cette certitude-là, ce n'est pas écrit, bien, vous allez peut-être être ensemble dans les lieux célestes, si ça se passe comme prévu, s'il n'y a pas... Non, c'est une chose qui est assurée à cause de l'œuvre qu'il a faite. Dans Éphésiens 1, le verset 20, que vous avez, vous pouvez regarder un peu avant, ça parle du Seigneur Jésus, puis ça parle de ce que... Dieu a fait du Seigneur Jésus, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus des morts, Puis, il le fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Le texte nous dit, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est extraordinaire à cause de ce que le Seigneur Jésus est mort puis qu'il est ressuscité. C'est comme de toute façon, il nous a traînés avec lui puis il nous a amenés au ciel, dans les lieux célestes. C'est ça que Dieu a fait. On était morts, puis à cause du fait que nous, c'est une mort spirituelle qu'on avait, le Seigneur est mort physiquement, puis quand il est revenu à la vie, il nous a amenés dans cette position-là déjà, puis on va avoir une pleine mesure de ce que ça implique dans l'éternité. Mais on a cette position-là que Dieu a créée. Pourquoi que Dieu fait ça? Parce qu'il nous aime, puis il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, on parle de sa grâce. On a chanté avec le chant pour enfants, sa G-R-A-C-E, nous S-A-U-V-E. On va le voir, le verset 8, c'est inspiré du texte qu'on regarde ce matin. Sa grâce est infinie, extraordinaire. On n'arrive pas à saisir la pleine portée de ce qu'il a fait et de sa grâce pour nous, du fait qu'on... La grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne méritait pas. Si la miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on méritait, la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne méritait pas. Puis on n'a pas d'idée à quel point qu'on reçoit. C'est un thème inépuisable, un sujet inépuisable qu'on pourra, d'une certaine façon, étudier pour l'éternité. McDonald qui mentionne ça. C'est un sujet qui ne sera jamais épuisé. Si Dieu va révéler tout cela dans toute l'éternité, nous n'aurons jamais fini d'apprendre. Le ciel sera notre école, Dieu sera notre maître et le sujet de sera sa grâce. Nous serons les élèves et le semestre sera l'éternité. Donc, on n'aura jamais fini de saisir la profondeur, la richesse de la grâce que Dieu a eue envers nous. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis on le réalise pas aujourd'hui, puis on va apprendre, à chaque fois qu'on va apprendre à connaître Dieu, puis déjà, ça nous incite à vouloir l'étudier, sa grâce, à comprendre, apprendre à apprécier ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Troisième point, l'artiste qui est Dieu a fait une œuvre qui est achevée, qui est accomplie, qui est terminée. Le texte nous dit « car » il explique l'infinie richesse de sa grâce, que ça le fait, la première chose, que ça le fait, la chose par excellence, c'est par la grâce que vous êtes sauvé. Sauvé, on est sauvé de quoi? On a besoin d'être sauvé de quoi exactement? La mort éternelle. On a besoin d'être sauvé de nos péchés, des conséquences de nos péchés, de notre nature, de tout ce qui est en nous qui n'est pas à hauteur ou qui n'arrive pas à la justice ou la sainteté de Dieu. On a besoin d'être sauvé parce que si on ne le fait pas, on est condamné. C'est par la grâce que vous êtes sauvé. Donc, Dieu nous fait cette grâce-là d'être sauvé. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne le salut. Le salut, c'est être sauvé. Comment que ça arrive? Ça nous dit, puis on l'a chanté, le moyen, c'est par la FOI. On l'a chanté dans les chants pour enfants. Dit la Bible, donc, c'est le moyen de la foi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? C'est que la foi nous est le moyen que Dieu a prévu pour avoir accès à cette grâce-là. Je cite le commentaire biblique du chercheur qui nous dit « La base du salut, c'est la grâce. » Donc, c'est vraiment la grâce qui nous donne le salut, qui nous permet d'être sauvés. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est la foi. La foi n'est pas une œuvre. Donc, on ne peut pas dire... Je ne peux pas dire, la lecture, elle ne mérite pas le salut. Elle est le moyen par lequel quelqu'un accepte le salut gratuit de Dieu. Donc, je ne peux pas dire, Dieu, il a fait une grande œuvre. Mais moi, j'ai cru, par exemple. J'ai le mérite d'avoir cru. Oui, Dieu, il a fait, Seigneur Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Mais moi, j'ai cru. Moi, j'ai vraiment... Une charge était là dans ce processus-là, sinon ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Si on a cette idée-là, on n'a pas compris. La foi, c'est accepter ce qui est accompli. C'est accepter une œuvre accomplie. La foi, c'est qu'on... Puis on l'a vu ce matin en notre temps d'adoration. Des fois, notre foi est faible, notre foi est fragile. La foi, c'est de mettre sa confiance dans quelque chose qui est fait, qui est accompli. C'est de mettre sa confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, c'est ça, la foi. La foi n'est pas... c'est accepter ce que Dieu a fait. Le salut ne prend pas sa source en l'homme, mais dans la grâce de Dieu. Donc, c'est pas nous qui faisons qu'on est sauvés. C'est la grâce de Dieu qui nous donne accès au salut. Donc, il y a quand même une nuance à comprendre, puis je suis convaincu que vous le comprenez bien. Le texte nous dit, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par des actions qu'on pourrait accomplir afin que personne ne se glorifie. La Bible français courant, la traduction français courant mentionne, ce n'est pas le résultat de vos efforts. Donc, si vous pouvez être sauvé, avoir le salut, ce n'est pas le résultat d'actions ou d'efforts. Genre, avoir fait assez de bonnes choses pour réussir à obtenir ce salut-là. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que ce n'est pas du tout le résultat de vos efforts. Ce n'est pas vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. On est sauvé pour célébrer sa gloire. Dans Éphésiens, le chapitre précédent, le chapitre 1, il y a quelques endroits qui nous parlent des bénédictions qu'on a. J'ai lu le verset 3 tout à l'heure. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, on a des bénédictions extraordinaires dans les lieux célestes. Pourquoi? Il y a plusieurs endroits, c'est mentionné, les versets 5 et 6. « On a été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. » Donc, pourquoi? Pour louer la gloire de sa grâce. Les versets 11 à 14, ça nous dit qu'on a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Puis un peu plus loin, ça nous parle, le verset 14, ça nous dit « lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, le but, c'est qu'on serve à célébrer sa gloire. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ben moi, j'ai réussi à être sauvé. » C'est passer à côté de ce que Dieu a fait pour nous. Si on veut se glorifier, est-ce qu'on peut se glorifier? Comment? On peut se glorifier de le connaître, mais on peut se glorifier dans le Seigneur. Ça, c'est une bonne réponse. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il manque un mot dans ma phrase, mais... que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, on peut se glorifier dans ce que le Seigneur a fait, puis on peut le louer. Notre but, c'est de le louer, c'est de le glorifier, c'est de célébrer sa gloire, célébrer ce qui est. Donc, c'est ce qu'on est appelé à faire. On n'a pas aucun mérite dans le chef-d'œuvre que Dieu a accompli. Donc, Dieu a créé ce chef-d'œuvre-là. On n'a pas à se glorifier. Puis le texte nous dit, « Car nous sommes son ouvrage. » Le mot dans le grec, c'est « poiema ». Est-ce que ça vous fait penser à un mot en français? Poème. C'est comme si Dieu a fait un poème de nous. C'est comme, c'est Dieu, c'est pas une œuvre banale qu'il a fait. C'est le même niveau que la création, j'ai mentionné. Donc, Dieu a fait cette œuvre-là de nous. On est son ouvrage, son poème, son œuvre d'art, son chef-d'œuvre. Donc, Dieu a fait ça de nous. On a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on a été créé en lui pour de bonnes œuvres. Puis là, vous voyez, en parenthèse, le mot, c'est « ergon », ce n'est pas les mêmes œuvres, c'est des actions qu'on peut faire. Puis, ces œuvres-là, ce n'est pas des œuvres qui procurent le salut, mais c'est des œuvres qui sont faites parce qu'on a obtenu le salut. Les bonnes œuvres, William McDonald mentionne, les bonnes œuvres ne sont pas la racine, mais le fruit. Nous ne les produisons pas, afin d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Donc, on est sauvés par sa grâce. Par le moyen de la foi, on est sauvé, puis le fruit de tout ça, c'est qu'on va produire des bonnes œuvres. On va produire des œuvres qui représentent ce que Dieu, le changement que Dieu a accompli dans chacune de nos vies. Donc, on ne les fait pas pour les mêmes raisons. On ne les fait pas dans le but d'obtenir quelque chose, mais on les fait parce qu'on a obtenu quelque chose. Dieu a préparé ces bonnes œuvres-là d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Puis la version Darby mentionne afin que nous marchions en elles. Il y a une idée de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je rappelle le début du texte qu'on considère ce matin. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois. Donc, vous marchiez dans vos offenses et dans vos péchés. Vous aviez une marche-là dans le péché. Puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transformation. Nous sommes, son ouvrage, on a été créé dans le Christ. C'est la version Darby qui est là. Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. On marchait dans nos péchés. Maintenant, on marche dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il y a un changement que Dieu a opéré, que c'est lui qui place ces œuvres-là devant nous. On n'est pas en train de vouloir prouver quelque chose. On marche dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Ça vous va? Des questions? Quelles applications qu'on peut tirer? Puis les applications, c'est des rappels du texte qu'on vient de regarder ce matin, des applications, des encouragements qu'on peut tirer de ce texte-là. Déjà, la compréhension du salut, de ce que Dieu a fait pour nous, ça devrait nous réjouir, puis changer notre façon de voir les choses. Quelques applications, encouragements, réflexions. Premièrement, la mort est un problème. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. La mort est un problème, la mort physique, mais la mort spirituelle est un problème également. Puis je dis ça en tant que père de jeunes enfants, que je trouve terriblement beau, puis terriblement fin, puis sont-ils extraordinaires? Puis pourtant, s'ils sont morts spirituellement, il y a un problème. Le problème de l'homme n'est pas qu'il soit en désaccord avec son environnement. Le problème de l'homme n'est pas qu'il ne puisse pas nouer des relations significatives. Le problème de l'homme, c'est qu'il est mort. Ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Il est mort pour Dieu. Son corps est vivant, mais son homme intérieur est mort. Donc, si on est spirituellement mort, on a un problème. On est des fils de la rébellion. On est des enfants de colère. On a juste à attendre notre destinée éternelle, qui est malheureusement la colère de Dieu, la séparation d'avec lui. C'est un problème qui doit être réglé. Donc, c'est important de considérer ça. Puis, tu sais, ça nous donne une perspective aussi des gens autour de nous. On peut, tu sais, il y a des gens, hier, on jouait avec les voisins dans la rue. Ils sont bien gentils. c'était plaisant, mais s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ont un problème. Puis, c'est pas parce qu'ils sont, on est meilleur qu'eux. C'est qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu. Donc, c'est vraiment important de considérer. Un autre encouragement pour nous, c'est que Dieu n'a pas dépassé. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu n'a pas dépassé. Je vous faisais cette idée de coloriage-là que je fais. Le texte dit qu'on est son ouvrage, son chef-d'œuvre. Tu sais, des fois, on pourrait... Tu sais, quand je fais du coloriage, des fois, même si j'ai les bonnes couleurs, les bons crayons, des fois, je suis inattentif, puis je vais colorier le numéro 2 qui aurait dû être vert, je colore rouge. Fait que là, j'ai scrappé le dessin. Ou des fois, je vais dépasser, puis ah, c'est moins beau. Puis Dieu n'est pas comme ça. T'sais, vous pouvez regarder votre... si Dieu a fait un chef-d'œuvre, évidemment, on n'a pas une appréciation de ce qu'il a fait, mais Dieu nous voit déjà de cette façon-là. Puis Dieu n'a pas raté son coup. Des fois, on pourrait se dire, mais c'est bon, il n'y avait pas d'affaires, mais sans Dieu, il aurait pu me donner plus. Non, Dieu, il avait un plan, il a fait un chef-d'œuvre, vous a pris, vous étiez mort, vous étiez séparé de lui, puis Dieu a fait un plan avec lui, puis il n'a pas raté son coup avec vous, donc il vous a rendu beau à ses yeux, puis vous pouvez être fier de ce que Dieu a fait pour vous, puis Dieu, c'est ce qui motive, c'est qu'il nous aime. Il est plus grand, il est plus grandiose d'être aimé par le puissant souverain de l'univers que par tout autre être humain. Donc, sachez que Dieu vous aime, il est fier du résultat que vous avez fait, qu'il a fait de vous. Puis, une œuvre exceptionnelle. Donc, c'est quand même un encouragement. Des fois, on a tendance à voir nos difficultés, voir nos soucis, voir nos défauts. Mais Dieu, il a fait une œuvre extraordinaire dans nos vies. Donc, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Encore une fois, une explication de la foi. La foi... accepte un travail ou une œuvre qui est accomplie. Donc, la foi n'est pas une œuvre, mais accepte un travail accompli. Je lisais un commentaire qui parlait de ça, puis il y avait une soirée d'évangélisation à une ville X. Puis, la soirée, elle avait eu lieu. La soirée s'était terminée. Les gens étaient partis, puis il restait juste une personne dans la salle qui faisait le ménage. Donc, il y avait quelqu'un qui était là, qui faisait le ménage. Puis là, il est arrivé une personne. Puis il est arrivé une personne en soirée. Puis là, il dit, là, je veux être sauvé. Puis je suis venu à la réunion pour être sauvé. Est-ce que je peux parler au l'évangéliste, à la personne? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me parler? Puis la personne dit, ben là, la soirée est finie. Là, la réunion elle a eu lieu, là, c'est terminé. Puis il dit, moi, mais là, je veux être sauvé. J'aimerais ça être réglé mon problème. Puis là, la personne qui faisait un chrétien mentionne, bien, il n'y a rien à faire, tout est fait. Puis là, la personne pensait qu'il était trop tard. Mais il était effectivement trop tard parce qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour se sauver, parce que Dieu avait déjà tout fait. Tout ce qui lui était resté à faire, c'était de mettre sa confiance dans ce que le Seigneur Jésus avait fait. Donc, c'est être sauvé, c'est de mettre sa confiance, sa foi dans l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus. Puis dernière réflexion pour notre vie spirituelle, est-ce que, pour notre vie tous les jours, est-ce que l'œuvre de Dieu qu'il a fait avec moi, avec nous, est-ce qu'elle est bien visible, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est mise en évidence, ou on ne marche pas dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous? Je suis convaincu que ce que Dieu, si on est un chef-d'œuvre, c'est parce que Dieu le fait. Ce n'est pas à cause de ce que moi, de ce que vous avez fait. Évidemment, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Voyez ça comme si vous allez dans un musée, vous allez voir des œuvres d'art, puis vous allez voir que les œuvres sont protégées. Tu sais, si vous allez voir la Joconde en France, vous n'allez pas pouvoir aller toucher. Tu sais, il y a des vitres, il y a des enceintes pour protéger, puis l'œuvre est exposée. Puis il y a une enceinte pour le protéger. Puis l'idée, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui vont restaurer les peintures ou qui vont nettoyer la fenêtre pour la garder propre, pour que les gens puissent bien la voir. Puis est-ce que dans ma vie, je tolère des choses? Si Dieu a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie, si Dieu a fait de nous des chefs-d'œuvre, puis on va avoir une appréciation parfaite dans l'éternité, est-ce que déjà dans ma vie, l'œuvre de Dieu qu'il a fait pour moi est visible? Ou est-ce que je laisse traîner des taches, des saletés dans la fenêtre, dans le hublot, que les gens puissent voir, puis que malheureusement, les gens ne voient pas ce que Dieu a fait dans ma vie, mais ils voient des choses qui ternissent l'œuvre de Dieu. Est-ce que je tolère des choses? Est-ce que ma relation avec lui est au bon point? Ou malheureusement, il y a des choses qui laissent à désirer? Est-ce que je confesse et j'abandonne les péchés? Est-ce que j'étudie sa parole? Est-ce que je prie à chaque jour? Est-ce que je saisis les occasions de rendre service? Est-ce que je cherche la communion avec d'autres chrétiens? Est-ce que je fais en sorte que la vitrine qui est devant moi est propre et que je peux dégager et démontrer l'œuvre de Dieu dans ma vie? C'est une question que je vous invite à réfléchir pour chacun d'entre vous. On va terminer par un mot de prière. Notre Dieu, on te remercie pour ce texte qui est tellement riche, qui nous parle de ta grâce, qui nous parle de l'œuvre que tu as fait pour nous. Seigneur, on sait qu'est-ce qu'on était. On était morts, on était perdus, on n'avait rien qu'on pouvait faire, mais tu nous as fait grâce, puis tu nous as sauvés. Quelle merveille, Seigneur, quelle grâce extraordinaire. On est reconnaissant de tout ça, puis on veut être des lumières pour toi. On ne veut pas que nos vies soient... On veut pratiquer les bonnes œuvres que tu as mises devant nous. Seigneur, donne-nous de les... De juger, de régler toute chose qui peut te déplaire dans nos vies, puis qu'on puisse marcher dans ce que tu as préparé pour nous, puis que tout se fasse pour ta gloire. Je te prie pour chacun des frères et des sœurs ici. Je te remercie pour ce temps passé ce matin, puis on se place devant toi pour cette semaine qui est devant nous. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.